Bonjour Quentin Dupieux.
Bonjour, bonjour.
C'est votre film, Le Daim, qui ouvre la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Est-ce qu'il y a un petit frisson à en être?
Ah, totalement. Déjà, il y a un grand frisson de montrer un film, de faire une première de cette envergure. Cannes, c'est super. J'y étais qu'une fois avec mon film Rubber à la Semaine de la Critique, il y a quelques années. Voilà, moi, ce qui m'excite avant tout, c'est la projection. Avec, en fait, globalement, le meilleur public du monde, j'ai l'impression, des gens qui ont très envie de voir un film. Je suis content d'aller à Cannes pour ça. Ouais.
Alors, vous parliez de Rubber, c'était en 2010, je crois,
Oui.
l'histoire d'un pneu tueur. Alors, cette fois, c'est le Daim, qui raconte l'histoire d'un homme un peu étrange qui va traverser toute la France dans sa vieille voiture. Il y a un petit crachin comme ça, c'est un peu de nuit, des images de nuit. Et il va aller récupérer un blouson en daim chez un vieux monsieur. D'où vient cette histoire? D'où vient ce scénario?
En fait, c'est un film qui parle de liberté. Donc peut-être qu'à l'origine, je ne sais pas comment j'ai eu envie de parler de liberté et c'est devenu ça. Mais expliquer pourquoi le point de départ du film, c'est un blouson en daim, c'est impossible. En fait, c'est les idées, c'est dans l'air et c'est impossible de savoir pourquoi. En fait, la première volonté, c'était de faire un film absolument grotesque. Et puis finalement, le grotesque a disparu et c'est devenu un film un peu plus ancré dans une réalité. Passer la stupeur. De voir ce mec acheter ce blouson pour 7000 euros. En fait, il y a tout un tas d'autres paramètres qui embarquent le spectateur et on oublie l'origine du film, qui était en fait l'envie de filmer un mec grotesque. Ça a complètement disparu avec la réécriture et surtout avec le brio de Jean.
Alors le Daim, Quentin Dupieux, c'est une atmosphère à la fois réaliste et très étrange. Comme spectateur, dès le départ, on est assez inconfortable, on sent que quelque chose ne va pas. Et c'est l'ambiance sonore, la musique que vous avez mise sur les images qui reprend peut-être un peu les codes du film d'épouvante.
Effectivement, toute cette première demi-heure, on va dire, on sent que le film va glisser. On ne sait pas exactement comment ni pourquoi et à quel moment, mais on a le pressentiment, j'ai l'impression, d'assister au début d'un truc qui va mal tourner.
Vous voyez bien que c'est pas un vêtement banal.
Tu me fais confiance ou pas?
Non, je suis tout seul. Je suis tout seul, mais enfin, je suis tout seul.
J'ai pris un peu de recul et je commence à regarder le film avec distance. Je me rends compte qu'effectivement, il y a un petit truc un peu d'épouvante à l'ancienne, comme un Hitchcock, où on sent qu'un drame va se passer et c'est un petit jeu avec le spectateur. En fait, c'est très différent des films d'épouvante qui, moi, m'ont marqué dans ma jeunesse, qui étaient des films un peu plus bêtes et méchants, je dirais. Voilà, j'étais un grand consommateur de films fantastiques et de films d'horreur. Par exemple, voilà, le premier qui me vient à l'esprit à chaque fois depuis 10 ans en interview, c'est Massacre à la tronçonneuse, parce que c'était un choc absolu et parce que c'était un film interdit et parce que la simple vision de la jaquette en vidéoclub me collait des frissons, quoi. Et que c'est un grand film, en fait, tout simplement. Puis il y en a plein d'autres. Quasiment la totalité des films de John Carpenter, même les plus mauvais, même les ratés, sont géniaux. Je pense à, par exemple, un film comme Christine, sur cette voiture vivante, qui est un espèce de truc, pour le coup, un peu grotesque, mais qui est fait avec tellement de brio, et l'utilisation de la musique, encore une fois, chez Carpenter, elle est fabuleuse. Enfin, bon, bref. Bon, mais bizarrement, mon film d'épouvante, puisque je viens de faire une comédie d'épouvante, on peut dire, s'inspire plus, malgré moi, de films plus anciens, j'ai l'impression, quoi. Voilà, j'ai l'impression.
Alors, en même temps que son blouson en daim payé cash 7500 euros, votre personnage, joué par Jean Dujardin, reçoit un caméscope numérique. Il n'en a visiblement jamais manipulé. Il va jouer un peu avec, comme un enfant, pour tuer le temps, pour oublier un peu cet ennui poisseux qui lui colle à la peau. Est-ce que c'est un film qui parle aussi du cinéma?
Un tout petit peu. Maintenant, voilà, c'est plus fort que moi. J'aime bien voir un mec filmer, j'aime bien voir un mec brancher une caméra sur une télévision et regarder ce qu'il a filmé. Maintenant, j'ai essayé de le faire sur le Daim, j'ai essayé de le faire avec distance, sans aucun professionnalisme. C'est-à-dire que c'est pas un film qui regarde le cinéma, c'est un film qui regarde un type à qui on a offert un caméscope et qui, comme vous venez de le dire, n'a jamais utilisé de caméscope de sa vie.
Oui, alors du coup, avec ce caméscope, ce personnage qui est un peu, comment dire, en perdition, il a comme une sorte de pouvoir. Déjà, le fait de dire qu'il est réalisateur dans un bar paumé au milieu de nulle part, ça lui donne une aura, les gens l'écoutent, il devient quelqu'un d'autre, il peut même animer des objets, comme son blouson en daim.
On peut s'amuser à creuser, effectivement. Hein, de toute façon, je pense que il y a tous ces sujets-là, et je ne vais pas faire comme si je ne le savais pas. Mais le mec n'aura à aucun moment la prétention d'être un cinéaste. Il fait semblant pour arriver à ses fins. Son projet n'a rien à voir avec le cinéma. Son projet très ambitieux de supprimer tous les blousons de la planète. C'est une entreprise aberrante qui n'a rien à voir avec le cinéma. C'est un film qui démarre dans l'ennui morbide de la vie toute normale d'un condamné, en fait, d'un mec qui a un boulot qu'on imagine être très ennuyeux, une vie qui va pas très bien. En fait, on part d'un truc très difficile, j'ai l'impression, pour aller vers la liberté et une forme de créativité, même si lui l'exploite très mal, et même si le film glisse vers un truc affreux. C'est un créateur qui se sert très mal de son outil, mais qui, malgré tout, découvre la liberté d'avoir un projet et de créer. Oui.
Il est complètement obsessionnel, votre personnage.
Complètement. Et c'est ce qui a d'ailleurs séduit Jean, à qui j'ai pitché ce film improbable dans un café, et qui a quasiment dit oui tout de suite. Je crois que ce qui lui a plu, au-delà de cette dimension obsessionnelle, c'est ce postulat d'un type tout seul dans sa voiture. Une histoire où un mec déraille seul, je crois que ça l'intéressait. Il attendait ça depuis pas mal de temps, d'après ce qu'il m'a dit. Et j'ai l'impression que c'était une sorte de terrain sur lequel il n'avait jamais joué.
Qu'est-ce qui vous fait rire au cinéma, vous, Quentin Dupieux ?
Malheureusement, ça fait très longtemps que j'ai pas eu de rire sonore, ou en tout cas d'éclat de rire au cinéma. Je peux m'amuser et prendre du plaisir, mais le vrai rire, l'éclat de rire, c'est très rare. Mmh. Moi, j'ai envie de divertir, et j'ai vraiment envie de faire marrer les gens. Après, effectivement, mes films prennent des chemins tordus, et parfois ça devient sinistre, et parfois c'est aberrant ou angoissant. Mais mon seul et unique goal de metteur en scène et d'auteur, c'est de faire rire, c'est de divertir et d'amuser les gens.
Merci beaucoup, Quentin Dupieux.